19h-20h. Et les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver. Vous le savez, comme chaque soir, c'est ici que ça se passe pour commenter, analyser, mais également décrypter l'actualité. Au sommaire, ce que je vous propose, eh bien, c'est de poser un moment et de parler de ces législatives qui sont aussi un enjeu électoral, mesdames et messieurs. 01 53 48 3000. Si vous souhaitez intervenir, vous êtes les bienvenus. Alors, législative, on va recevoir le maire que vous connaissez, monsieur Azzedine Taibi, qui sera avec nous, qui est candidat désormais. Candidat, donc, de la gauche, de Mélenchon. Il sera avec nous dans une poignée de minutes. Mais aussi, Mohamed Hakou, qui est candidat aussi, libre. Il sera avec nous tout à l'heure. Enfin, à 19h30, nous serons avec le Quad 9 et puis surtout les débatteurs influenceurs qui sont avec nous ici sur le plateau en direct. Jean-Pierre Colombiès, l'ex-commandant de police, qui viendra nous livrer quelques coulisses concernant l'affaire Abad. Oui, parce qu'il y était à cette époque, effectivement. Eh bien, il est avec nous et c'est en exclu. Autre journaliste indépendant, il s'appelle Ibouba. Il est avec nous et il vient justement nous livrer son regard contre sur cette polémique concernant Pape Ndiaye. Terrible, effectivement. 01 53 48 3000, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Alors c'est parti tout de suite, l'invité, c'est parti, l'invité du jour.
Les informés, l'interview.
Interview, vous le savez, c'est avec le maire de Stain, le maire qui, normalement, on a quelques problèmes de connexion au niveau du téléphone, mais on va le retrouver dans une poignée de secondes. Le maire de Stain, justement, qui lui est candidat, donc investi désormais, ça y est, le maire de Stain investi depuis quelques jours pour représenter, justement, avec sa suppléante Soumaya, Bouroua, qui est donc... Ils porteront les couleurs de la NUP. Allez, je vais présenter mes invités qui sont les débatteurs influenceurs, le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
En attendant, si on n'arrive pas à joindre le maire de Stain, on va joindre Mohamed Hakou, qui lui sera avec nous, qui est candidat aussi, dans une poignée de minutes. Jérôme Colombiès, comment ça va ?
Jean-Pierre,
j'ai dit quoi ? Jérôme. Pardon, autant pour moi, je m'excuse.
Oui, Jérôme, c'est bien aussi.
Non, Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre.
Mais bonsoir à tous.
Tout va bien ?
Ça va très bien, en forme.
Où en êtes-vous d'ailleurs avec votre comédie ?
La comédie.
Ça avance ?
La comédie, c'était autrefois le communard qui a passé la main à ce qui se prépare, une comédie policière qui se jouera à la rentrée.
Aïe, ça promet ça aussi.
Ah, ça promet, oui.
Autre débatteur en face de vous, c'est Ibouba. Ça va, Ibouba ?
Comme d'habitude, bah, écoute, c'est un grand plaisir de te voir, Adil Farkan, le patron.
Partagez, bienvenue.
L'homme suivi par tout le monde et par tous, donc voilà, sur Bar FM.
Et par personne à la fois.
La meilleure des radios, la plus grande radio de France.
Écoutez, ça fait plaisir en tout cas de l'entendre de votre bouche. Merci, cher ami. Alors, messieurs, tout de suite, je vais, avant hein, évidemment de vous retrouver, nous allons recevoir. Vous suivez un peu les législatives ou pas du tout ?
La question posée à qui ? Ah ben on les suit, non, on les suit pas comme on devrait les suivre, à l'évidence, puisqu'on est complètement pollué par des polémiques qui sont là pour masquer bien des problèmes. Hein, le pouvoir d'achat, l'essence qui augmente de façon exponentielle, la vie des gens qui se compliquent jour après jour. Donc là encore, une fois de plus, on assiste à une diversion des sujets qui devraient nous préoccuper et qu'on n'entend pas du tout, que ce soit d'un camp comme de l'autre.
Eh ben on va s'intéresser, vous savez quoi, du côté du Val d'Oise, la 9e circonscription. Un candidat investi, il s'appelle Mohamed Hakou. C'est parti, l'invité du jour.
Les informés. L'interview.
L'interview, c'est avec Mohamed Hakou. Bonjour, mon cher Mohamed.
Bonjour, mon cher Adil.
Comment ça va ?
Bah, écoute, très bien.
Très bien, merci d'être avec nous, mon cher Mohamed. Vous êtes investi du côté du Val d'Oise, dans la 9e circonscription. Vous êtes un candidat indépendant à ces élections législatives. Pour quelle raison vous avez décidé, de vous présenter sans étiquette ?
Écoutez, c'est très simple. Au vu de la conjoncture et au vu de ce qui se passe dans le monde... On voit qu'aujourd'hui, l'indépendance, elle a un intérêt. Mmh. On voit ce qui s'est passé en Grèce, ce qui s'est passé en Espagne, ce qui s'est passé dans le monde arabe. On voit que les gens en ont marre de ces tendances politiques.
Ça, c'est le moment qu'on puisse dire.
Ils en
Jean-Pierre Colombiès en parlait un instant.
D'accord. Et juste pour finir, je disais sur l'indépendance, les gens ont compris que, par exemple, on va parler de l'accord NUP, qui est pour moi un jeu de dupes. Qu'est-ce qui va en rester le 19 juin ?
Oui.
Le 20 juin, chacun va reprendre son parti politique, oui, ou du moins ce qu'il en reste, pour essayer de recréer quelque chose. La NUP n'existera plus. Et on le sait très bien, c'est la même chose avec, avec le parti Ensemble. Tout le monde va reprendre ce qu'ils ont, les tambouilles politiciennes qu'ils faisaient avant. Aujourd'hui, les gens, les politiques, des partis politiques cherchent un poste plus à se servir qu'à servir les habitants. Et c'est ça qui est malheureux. Et aujourd'hui, les gens l'ont compris. À force de se faire avoir d'année après année, eh ben, il y a un moment donné, ils en ont marre. D'où cette espèce de défiance de la politique. Mais lorsque l'on on a des candidats indépendants, oui, du terrain, je dis, oui, bien du terrain, qui comprennent ce que vivent nos habitants et pas des parachutés qui nous viennent de Paris ou d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on achète des circonscriptions électorales et les habitants en ont marre.
En ont marre, justement, vous teniez, vous le dites vous-même, vous teniez à votre liberté, vous voulez la conserver, votre liberté. Vous la 9e circonscription, c'est quelle ville précisément ? Il y a Gonesse, j'imagine ?
Effectivement, c'est, il faut savoir qu'il y a 27 villes. Bon, je ne vais pas toutes les énumérer, mais les principales, c'est Gonesse, Goussainville, Roissy en France, Louvres, Fos, Le Tillet, Chaumontel. Et après, c'est vraiment des petits villages. Ça serait trop long. Je ne serais pas à prendre sur mon temps de parole.
Vous avez été conseiller municipal. Vous vous êtes présenté notamment au cantonal, au municipal, à plusieurs reprises.
Exactement.
L'homme, l'acteur politique que vous êtes local, Mohamed Hakou, aujourd'hui, comment vivez-vous justement cette investiture aux législatives ? Il y a, j'imagine, un regard nouveau, notamment ce brin de liberté, mais pas que.
Tout à fait, mon cher Adil, tout à fait. Et effectivement, ce brin de liberté, mais aussi, je ne veux pas être défaitiste. Il faut voir qu'aujourd'hui, notre pays est en pleine décadence. Au niveau du classement PISA, on régresse d'année en année. On voit sur le bien-être vis-à-vis des habitants, on est passé de la 6e place à la 26e place. Et ainsi de suite. La fuite des cerveaux, les gens sont en train de s'installer dans d'autres pays. Donc il y a une forme de décadence sociétale que je veux, moi, à mon niveau, essayer de résorber à l'Assemblée nationale. Pourquoi il y a cette décadence ? Parce qu'on s'aperçoit que les politiques aujourd'hui, les politiques publiques qui sont mises en place,
oui,
ce n'est pas celles qu'attendent les habitants de nos territoires.
Mais comment comptez-vous vous y prendre ?
Ben, c'est très simple. Très très simple. Moi, mon idée phare, on va dire, pour les 5 prochaines années, c'est d'une part de respecter nos habitants et de les consulter à chaque grand sujet de société. C'est-à-dire, on a légiféré pendant nombreuses années sans consulter les gens qui nous ont élus. Et ben moi, je vais créer une plateforme et je vais demander à mes concitoyens, enfin aux concitoyens de la circonscription, leur avis. Et en fonction de leur avis, je voterai en conséquence. Voilà, on appelle ça la démocratie, tout simplement.
Bon, dites-moi, qu'est-ce que vous dites aux habitants de la 9e circonscription pour les convaincre justement de voter pour vous et de vous retrouver au sein de cet hémicycle, l'Assemblée nationale ?
Un discours simple, cohérent, et surtout, je leur dis, ce qu'ils vivent, je le vis tous les jours. Je suis un candidat du territoire, du terrain. Je suis tous les jours auprès d'eux. Dans le cadre de mes permanences, je les recevrai à chaque fois. Je ne leur donnerai pas un rendez-vous dans 3 mois, 5 mois, 6 mois, ou peut-être pas, une fois qu'ils n'auront plus leurs problèmes. Voilà un peu ce que je leur promets.
Oui.
C'est exactement ça. Même si, effectivement, on leur a menti pendant de nombreuses années, on leur a fait des fausses promesses, et ben tout ça, je veux tordre le cou à toutes ces idées.
Comment s'organise votre candidature ? Comment s'organise votre campagne, pardon ?
Écoutez, j'ai un comité de soutien de plus de 150 personnes
dans
différentes villes de la circonscription, et chacun est responsable d'une partie. D'autres qui font du porte-à-porte, bien évidemment, je suis présent quasiment dès que je le peux dans chaque ville, parce que je peux pas malheureusement être dans les 27 villes à chaque fois. Donc j'essaie toujours de m'organiser chaque jour de faire une ville. Ensuite, le collage, bien évidemment, j'ai une équipe qui s'occupe uniquement du collage. J'ai des personnes qui les doléances, qui recueillent les doléances des gens. Encore ce matin, des gens m'ont dit qu'ils avaient des problèmes pour des passeports, des pièces d'identité, des rendez-vous qui s'étalent jusqu'au mois de septembre. Donc j'ai fait en sorte de créer une liste. C'est ça, avoir des idées. Créer une liste de désistement. Dès qu'il y a un désistement, on appelle automatiquement une personne. Comme ça, oui, on ne perd pas les rendez-vous et on essaie d'optimiser les rendez-vous. Enfin voilà, c'est un exemple concret. Hein. Et ensuite, bon, y en a tellement d'autres, hein, sur des problèmes de voirie. Encore, j'ai réglé ce matin à la rue de l'Hôtel Dieu, il y avait un problème de voirie, j'ai appelé les services pour qu'ils aillent. Voilà, c'est ça, être au plus près des citoyens.
Dites-moi, Mohamed Hakou, vous, candidat indépendant aux élections législatives dans la 9e circonscription du Val d'Oise, qu'est-ce que vous dites aux habitants qui vous écoutent ce soir ?
Écoutez, il faut, à un moment donné, s'occuper de la politique. Car si on ne s'occupe pas de la politique, c'est la politique, malheureusement, qui s'occupe de vous. Et quand elle le fait, elle le fait très mal. Et lorsque vous abstenez, ou lorsque vous votez blanc, malheureusement, vous donnez votre voix à quelqu'un que vous n'avez pas choisi. Et la politique, c'est un problème de choix. Aujourd'hui, on ne vote pas pour un candidat, si on prend les présidentielles, on vote pas pour quelqu'un, malheureusement, mais contre quelqu'un. Et moi, avec ma candidature, vous votez pour quelqu'un, à la fois qui vous ressemble, qui vous rassemble, et qui saura défendre les intérêts du territoire à 2000%. C'est-à-dire que j'y mettrai mes tripes pour pouvoir vous défendre, et j'y mettrai vraiment le temps qu'il faut, et à 100%, et pas avoir 15 mandats et je ne pourrais pas m'en occuper. Non, je m'y engage.
Merci Mohamed Hakou d'avoir été avec nous. Vous êtes le candidat aux législatives, donc désormais officiel candidat indépendant. Rendez-vous donc, j'ai bien noté, le 12 et le 19. Mohamed Hakou dans le Val d'Oise, dans la 9e circonscription. Merci d'avoir été avec nous.
Merci infiniment Adil, merci infiniment. Bon courage. Mais
avec plaisir, 19h12, bon courage à vous également, 19h12. Merci. On lance la pub ? Allez, on lance la pub et on se retrouve tout de suite après, messieurs, pour entamer, évidemment, à la fois Pap Ndiaye, le tout nouveau ministre de l'Éducation nationale, mais également l'affaire Haddad qui prend une ampleur pas possible. Abad, pardon. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
19h19 avec Jean-Pierre Colombiès, Ibouba. Messieurs, tout de suite, nous allons démarrer ce tout premier sujet. Que se passe-t-il franchement avec Pap Ndiaye, le tout nouveau ministre qui a endossé l'habit du ministre donc de l'Éducation nationale? Franchement, wokisme, islamo-gauchisme, violence policière, des déclarations polémiques parfois de beaucoup de gens. On parle aussi, vous savez quoi, d'un historien quand même qui est connu et reconnu. Et puis, sans parler de tous ces propos, cette avalanche de racisme. Alors, qui veut prendre la parole ? Jean-Pierre. Jean-Pierre, alors.
Avalanche de racisme de la part de qui ?
De l'extrême droite et de la droite.
D'accord.
Essentiellement.
Pas de lui. Alors même qu'il a déclaré, qu'il a fait des déclarations en disant que par nature, l'homme blanc était, ou du moins, la communauté blanche était, de fait, pouvait être considérée comme intrinsèquement raciste. Et ça, je considère que dire ça, bah, c'est porteur de problèmes, de crispation et de justice.
Ça va faire débat, je le sens.
Bah oui, ça c'est clair.
Moi je me sens quelque part presque insulté dans l'histoire. Je me dis oui, je suis blanc. Voilà, je suis blanc, donc de fait ça fait de moi
un homme
potentiellement raciste, ségrégationniste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ça manque de nuance. Ça manque de nuance. Et à l'évidence, après je laisserai la parole sans problème. À l'évidence, là encore une fois de plus, ça relève d'un calcul politique d'un certain Emmanuel Macron qui a récupéré cette personne très probablement très brillante pour faire la nique à la gauche, puisqu'il était issu de ce courant, du courant idéologique de gauche. Donc c'est une des prises de guerre, comme Abad, dont on parlera tout à l'heure. Mais voilà, c'est dire, voilà, moi je recrute ce monsieur, je le mets au gouvernement, pour faire voilà, le pendant à Blanquer, hein, quelque part, qui était exactement l'opposé, qui était négatif en blanc de cette personne. C'est très dangereux.
C'est très dangereux.
C'est très dangereux parce que c'est porteur, encore une fois, d'un discours vraiment qui va opposer les communautés les unes face aux autres. Et ça, c'était vraiment pas approprié. C'est du calcul politique. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que tout le monde en parle. Et pendant qu'on parle de ça, eh ben, on parle pas du prix de l'essence qui a dépassé les 2 euros, des problèmes d'achat alimentaire de la plupart des personnes, enfin, de problèmes économiques très lourds qui prouvent aujourd'hui que le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron il y a 2 ans, ben, n'était pas gratuit et qu'il faut le payer aujourd'hui. Donc, comme la facture va être pour la payer, ben on parle de Pap Ndiaye. Au moins, ça occupe les oreilles, ça occupe les médias. Et ça,
alors,
et ça crée des débats. Des débats,
alors, Ibouba, vous répondez quoi ?
Bon, moi, franchement, Jean-Pierre, moi, je suis pris de court parce que là, franchement, j'ai une page de vie quasiment dénaturée quand je vous écoute parler.
Ah.
Écoutez, parce que là, il faudra savoir une chose. C'est pas une question de blanc et de noir.
Je ne fais que le citer. Hein.
Non, vous avez cité. Je suis entièrement d'accord. Mais c'est pas possible que ça vienne de vous qui avez déjà servi l'État français en tant que policier ou en tant qu'autre de les façons. Donc, vous avez mis l'uniforme. Je crois que ça ne peut pas, ça ne doit pas traverser votre état d'esprit. Aujourd'hui, il faudra comprendre et accepter que la France, elle est ce qu'elle est. Et la France, elle est devenue ce qu'elle est parce qu'elle a une histoire. Et cette histoire, elle ne vient pas de nulle part. Cette histoire n'a pas été créée à tout temps du mythe. Et c'est une réalité qui est là, qui a été fondée. Nous savons très bien que, l'histoire nous lie. La France et l'Afrique. Mais moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'un responsable ou qu'un cacique se permet quand même, un Français se permet de faire une distinction entre un blanc et un noir pour dire que tout de suite, oui, c'est parce que justement, il est noir. Mais c'est
effectivement. Vous voulez faire
ça.
Référence à quoi, oui, Papa Ndiaye quand il est historien?
Exactement.
Justement, en disant. Est-ce qu'il ne faisait pas la référence justement à ce colonialisme?
Mais oui, évidemment, Adil.
Moi, je crois que c'est comme ça. C'est cette grille de lecture qu'il faut avoir.
On parle de Papa Ndiaye. Papa n'est pas le seul aujourd'hui. Mais il y a combien de ministres qui sont blancs aujourd'hui?
Il n'est pas raciste, Papa Ndiaye, je ne crois pas.
Nous avons eu le cas de Sibeth Ndiaye qui était là. C'était pareil. Il faut arrêter. À un certain moment donné. Non, non, mais attendez, monsieur, il faut que vous compreniez les choses telles qu'il sait. L'histoire de la France, il faut la connaître. Je crois que je me rends compte qu'au moins aujourd'hui, l'histoire de la France.
En tout cas, ça fait couler beaucoup d'encre.
Non, mais ça fait couler d'encre. Parce que justement, elle est méconnue, cette histoire-là. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes Français qui se permettent quand même de
vous
faire
le laisser
une distinction.
Répondre
de... Non, je vais répondre, mais je vais finir d'abord, monsieur. C'est, il faudrait comprendre qu'aujourd'hui, il faut arrêter de diviser ce peuple-là. La France n'est pas seulement blanc, beurre. Non, il faut que vous le compreniez et que vous l'acceptez.
Mais comprendre quoi?
Non, mais il faut que vous compreniez. Aujourd'hui, cette France-là où vous parlez aujourd'hui, moi, mon père, il a fait la guerre de l'Algérie, il a sauté sur une mine. Et s'il était mort, moi, je ne serais pas né aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on m'interdit de défiler sur les Champs-Élysées. Et pourquoi? En vertu de quoi? Vous, votre père, il a fait l'armée française? Est-ce qu'il a versé un sang pour la France? Non, pas du tout. Pourtant, vous avez été français. Vous avez été policier français. Non, mais aujourd'hui, Jean-Pierre, si vous me dites.
Alors, attendez, Jean-Pierre, si vous me dites.
Alors,
on va se calmer,
c'est un problème.
Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
C'est un problème. Je ne suis pas d'accord avec vous du tout.
Je sais que le sujet. Il y a beaucoup de. Attendez. Mettons la passion de côté et essayons d'apporter de la réflexion et du fond.
On est bien d'accord.
Alors, Jean-Pierre Colombiès. Non, mais après, Ibouba, je le comprends.
Sur l'histoire. Pour la connaissance de l'histoire, merci, j'ai quelques références.
Mais vous n'êtes pas le seul.
Non, non, mais je ne suis pas le seul à dire quoi.
Mais en fait, cet état d'esprit-là, moi, c'est que j'ai banni.
Pas de l'état d'esprit.
Oui, mais de l'état d'esprit, je suis désolé. Je suis en train de dire que justement, quand j'entends M. Papa Ndiaye dire que l'institution policière est raciste en soi, je dis que c'est à la fois un mensonge et une méconnaissance de la réalité. Pour une raison simple, c'est que moi, j'ai travaillé dans la police avec des Noirs et des Arabes. D'accord? Non, mais la police, elle est multicolore. Donc, quelque part, il faut faire attention à ce qu'on dit.
Oui, ça, je suis d'accord.
Attention à ce qu'on dit. Il faut employer des mots qui soient justes et pas catégoriser une institution tout entière. C'est très dangereux. Très dangereux.
Je suis entièrement d'accord.
Et que je sache, je n'ai pas envie de polémiquer sur l'histoire de France qui a eu ses pages noires, sans entièrement.
Voilà.
Pages noires façon.
La France, elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à cette peau noire-là, c'est grâce à cette Afrique-là aussi. Ouais. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais il faut qu'ils instruisent ça dans les écoles et dans les établissements français.
Attendez.
Que je n'ai pas tenu. Et deux, quant à la connaissance de l'histoire et de l'histoire coloniale, je la connais très bien aussi. Bon, là, on ne va pas commencer à faire un cours d'histoire ici, mais je la connais tout aussi bien. Et les reproches qu'on peut faire à l'histoire de France, on peut les faire. Il n'y a aucun problème. Moi, j'assume tout. Enfin, j'assume, j'ai rien assumé du tout, parce que je n'étais pas au gouvernement quand il y a eu les guerres coloniales. Ça, c'est le premier point. Mmh. Mais de deux, ce qui s'est passé il y a 100 ans ou il y a 60 ans, on n'en est pas comptable. Et moi, je n'en suis pas comptable non plus. Quand tu as porté l'uniforme, j'ai porté aussi avec des hommes. Il suffit de regarder une patrouille de police quand elle est dans la rue. Hein. Il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a des gens de la diversité, il y a des Asiates aussi. Il y en a beaucoup. Voilà. Mais je suis désolé de dire que la police en soi est raciste. Non seulement c'est une erreur, mais c'est dangereux.
Je suis d'accord avec vous. Voilà. On ne peut pas dire que la police elle est raciste. Mais par contre, il y a des racistes parmi des policiers.
C'est partout.
Mais voilà, ça aussi, il faut le reconnaître.
Partout.
Mais le fond du problème aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, je crois, moi, à ma vision spontanée des choses, monsieur. Vous avez porté l'uniforme, vous avez prêté serment. Oui, d'accord, mais vous avez prêté serment. Oui. Je crois que vous êtes là pour une république. Et la république, elle a ses bases. En fait, elle a sa vision. Et vous êtes un enfant de la république. Vous devez
vous,
faire
Jean-Pierre
les choses.
Colombiès,
de la
vous faisiez référence, me semble-t-il, sur les déclarations de Papa Ndiaye lorsqu'il était directeur général du musée de l'immigration, notamment sur les mots racisé et privilège blanc, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Ouais, mais pourquoi aujourd'hui on se ressuscite cela? Pourquoi? Mais il y a tant de ministres qui ont été nommés. Qu'est-ce qu'ils ont
mais
fait
désormais,
dans le passé?
C'est le ministre qui parle.
Personne n'en parle.
C'est pas Papa Ndiaye,
pourquoi
c'est le ministre
Papa
désormais.
Ndiaye seulement. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi seulement Papa Ndiaye? Est-ce qu'il est le seul nommé ministre?
Non, mais
Mais pourquoi aujourd'hui, il n'y a que lui qui est sûr
qu'il est sur la toile?
Pourquoi une polémique? C'est ça
pourquoi la question, je veux savoir.
Pourquoi
une déclaration? Pas parce qu'il est noir.
Mais c'est pas... parce qu'il est noir, c'est ce qu'il faut dire. Il faut qu'ils arrêtent de teindre les choses et puis de faire comprendre aux gens que c'est pas... Non, mais c'est ça. Monsieur, vous savez, le verbatim, il est très fort. Aujourd'hui, la communication, tout le monde peut le faire. Nous sommes à l'an 2000, là, dans 2022, c'est pas facile de pouvoir blaser les gens. C'est impossible, ça. Aujourd'hui, si on parle de Pape Ndiaye, c'est parce que, justement, il est noir, origine sénégalais, point barre. Il y a plein de ministres qui ont été nommés ici et qui sont blancs. Personne n'en parle aujourd'hui. Elle a vécu la même chose. Non, mais il faut que les gens l'entendent et qu'ils le comprennent et qu'ils l'acceptent. Mais il faut pas.
Vous êtes convaincu, Ibiouba, c'est parce qu'il est noir d'abord.
Mais bien sûr que c'est ça.
Et que les propos racistes sont tenus parce qu'il est noir. Oui.
Mais bien sûr.
J'aimerais quand même faire un petit.
Oui. Mais bien sûr.
Alors, non, attendez. Tiens, je vais solliciter. Attendez, je vais solliciter aussi nos auditeurs. Parce que c'est... Non mais attendez, c'est très important ce qui se passe là. 01-53-48-3000. Je voudrais qu'on entende nos auditeurs, évidemment. Est-ce que Pape Ndiaye, évidemment, face à cette avalanche, ce cyclone de propos racistes, parce qu'il est noir ou parce qu'il a lui-même tenu des propos dans le passé, comme le rappelle Jean-Pierre Colombiès, évidemment, sur le racisé, sur le privilège blanc, etc., etc. Je vous attends 01-53-48-3000, le standard est ouvert. Jean-Pierre Colombiès. Et on retrouve le quoi de neuf justement sur Pape Ndiaye.
Je ne me sens pas du tout mal à l'aise dans le cadre de ce débat. Non, mais je n'ai rien à me reprocher. Puis je connais d'autres personnes aussi qui partagent mon avis et qui sont tout à fait claires dans leur tête. Hein. Si Pape Ndiaye, elle a été critiquée, pas parce qu'elle était noire, hein, je suis désolé. Elle a été critiquée parce qu'elle a menti.
Laissez-le finir, attendez, oui, s'il vous plaît, Bouba.
Elle a été critiquée parce qu'elle a menti. D'accord. Et quand Mme Taubira inaugure le monument en hommage à la période de l'esclavagisme, elle a été critiquée, pas parce qu'elle a inauguré ce mouvement, elle a été critiquée parce qu'elle ne stigmatise que la communauté blanche, en oubliant au passage les trafics d'êtres humains noirs qui étaient antérieurs à la traite des blanches, par les blancs plutôt, en Afrique. C'est ça qui lui a été reproché. Et il y en a eu d'autres, de ministres noirs, je suis désolé, c'est pas eux, ils n'ont pas inauguré.
Oui, il y en a eu il y a très longtemps, il y a 40 ans.
Je rappelle que le président de Gaulle perd le référendum en 69 parce que le président du Sénat de l'époque est créole. Donc à un moment, et on lui a jamais reproché d'être noir à cette époque. Donc à un moment donné, faut. Je dis pas que tout est merveilleux.
Le débat continue. Non, mais vous voyez bien, je savais qu'en parlant de Pape Ndiaye, ça allait susciter évidemment autant de débats. Mais vous avez raison, Ibouba. Attendez, je comprends ce que vous dites, je l'entends également. Et vous avez raison de l'exprimer ici sur cette antenne. De la même manière, Jean-Pierre Colombiès. Le sujet, vous savez quoi, du quoi de neuf, c'est avec Faïza Ben Mohamed. Elle est justement le sujet, c'est la polémique autour de la nomination de Pape Ndiaye. C'est parti, le quoi de neuf.
Les informés, le quoi de neuf.
Je vous ai appelé Faïza Ben en faisant référence à l'écrivaine. Vous vous rendez compte, Faïza Ben Mohamed?
C'est un compliment pour le coup.
C'est un vrai compliment parce que, effectivement, éminente écrivaine. Faïza Ben Mohamed, journaliste indépendante, avec sa signature, comme chaque mardi, plaisir de vous retrouver, ma chère Faïza. Vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur. Et bien justement, Jean-Pierre Colombiès et Ibouba, écoutez bien, dans la continuité, la polémique de la nomination au Pape Ndiaye. On vous écoute, Faïza Ben Mohamed.
Alors effectivement, je choisis de parler aujourd'hui de ce sujet qui fait beaucoup débat. Hein. C'est la nomination de Pape Ndiaye à la tête du ministère.
Bien dans votre cabinet, parce qu'on a beaucoup de mal à vous entendre, ma chère Faïza.
Ah, pardon.
S'il vous plaît.
Je disais donc que j'avais choisi de parler de cette nomination, plutôt de la polémique qui a suivi cette nomination. Bon, il faut reconnaître qu'après 5 ans de Jean-Michel Blanquer à l'éducation nationale, personne ne s'attendait à un tel grand écart. Et on doit reconnaître qu'il était difficile de faire plus différent avec ce nouveau profil. Et plutôt que de se réjouir de ce renouveau, de se dire que peut-être ce changement pourrait apporter quelque chose de mieux, l'extrême droite et une partie du monde réactionnaire se sont ligués ensemble contre cette nomination pour des motifs assez fous. Alors le nouveau ministre, il est accusé de wokisme, d'indigénisme, de racialisme et plein d'autres mots istes qui font bien peur, sans pour autant que ce soit vraiment défini. Il faut rappeler qu'il a quand même un cursus professionnel qui parle pour lui. Hein. Il a été longtemps à la tête du musée d'immigration, c'est un historien reconnu. Mais sa nomination, elle a tourné une réelle campagne de dénigrement et de harcèlement, notamment sur les réseaux sociaux. Alors sincèrement, quand on observe la manière dont il est le seul à avoir été conspué dès la première heure, il a été en top tweet toute la journée de vendredi, immédiatement après l'annonce du nouveau gouvernement, je ne peux pas m'empêcher de penser pendant ce lynchage à ce qu'a subi Christiane Taubira ou Nadine Vollebaeck-Fontaine au moment où elles ont aussi été nominées pour le gouvernement. Alors, je vais finir par une interrogation. Est-ce qu'on peut aujourd'hui en France combattre les violences policières, se positionner contre le racisme, vouloir faire un vrai travail de mémoire sur les questions coloniales et être traité comme les autres, y compris au gouvernement? Est-ce qu'on peut être un ministre noir ou racisé et être traité comme les autres?
C'est ce que disait Ibouba, justement. Donc, vous rejoignez effectivement à peu près les propos. Merci, ma chère Faïza Ben Mohamed, journaliste indépendante, d'avoir été avec nous à mardi prochain, sans faute.
Merci à vous, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Qu'est-ce qui se passe, Ibouba? Vous êtes énervé, hein?
Non, même pas. Non. Ben, écoutez, on discute, on échange, hein. Je ne suis pas du tout énervé, hein. Donc, vous savez, c'est l'échange des idées. C'est qu'à un certain moment donné, vous voyez, vous
stop, posez, quoi. Il y en a marre.
Vous posez des questions, vous dites, ben, je suis dans quelle société? On va où? Mais c'est ça, le fond du problème. C'est qu'il faudra. On va où? Il faudra que
c'est
les
vrai
gens.
C'est vrai qu'on a un problème mais avec les gens de couleur.
Il faut que les gens, ils comprennent.
Et qu'à un moment,
il faudrait qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, cette société-là, c'est une société melting pot, c'est une société métissée. Et il faut qu'ils le comprennent. Nous sommes liés les uns les autres. Et il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, on parle d'Areva, par exemple, je vous donne le problème. C'est qu'il faut, il y a un moment, je crois que c'est sur ce plateau-là, vous avez étayé quelque chose que je vais vous expliquer d'une façon rationnelle en quelques deux minutes. Vous savez, aujourd'hui, la France, c'est qu'elle oublie, je vais vous le dire. Moi, je suis très fier d'être en France. Et je suis très fier d'avoir des enfants en France. Je suis très fier d'être français. Le fond du problème, aujourd'hui, Jean-Pierre, moi, ce que je voudrais vous comprendre, il faudrait, à un certain moment donné, comprendre que, on n'est pas le seul maître des œuvres. En fait, les idées émancipatrices, elles peuvent venir de partout. Et il faut qu'on accepte l'autre comme il est et tel qu'il est. Aujourd'hui, on est lié par l'histoire, par les faits réels qui sont là. On parle d'Areva, on parle d'Afrique. Aujourd'hui, vous parlez par exemple de nucléaire. Je vous donne juste l'exemple. Aujourd'hui, si la France parle de nucléaire, est-ce qu'aujourd'hui vous... Mais ce qui fait fonctionner ce nucléaire-là, vous l'avez ici en France, mais vous ne l'avez pas. Vous le puisez où? C'est pas en Afrique, c'est le noir. Je vous donne juste un exemple. C'est qu'il y a une réalité patente qui est là. Il faudrait qu'on essaye de faire des cours, je sais pas, des cours magistraux, je sais pas, des cours de quoi, à certains gens plutôt de la communauté. Parce qu'il faut que les gens, ils comprennent quelque chose. Que les gens, maintenant, c'est la mondialisation là, les gens, ils sont liés. Il faut qu'on accepte les uns comme ils sont
Ibouba,
et accepter les autres comme
le
ils
débat
sont.
Continue. C'est juste ça. Je lance la pub, mon cher Ibouba, Jean-Pierre Colombiès. Je vous donne la parole juste après la pub. Promis.
Ben
c'est
oui.
À vous. Non mais attendez, vous allez lui répondre. Juste après la pub. On lance la pub. 01 53 48 3000, je vous attends. Vous nous appelez. Le standard est ouvert. Je vous attends. 01 53 48 3000. Votre avis compte.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h, 20h. Les informés avec Adil Farkan.
Le débat est passionnant, effectivement. Jean-Pierre Colombiès, Ibouba, 01 53 48 3000. Jean-Pierre, je vous avais promis de vous donner la parole juste après la pub. Je vous la donne.
Oui, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté.
Sur
cette antenne, j'ai déjà dit plusieurs fois, bien avant ce débat, ce débat très compliqué, que ceux qui tenaient un langage racisé de division feraient bien d'aller regarder les cimetières. Et les cimetières, notamment des anciens combattants. Parce que justement, ces cimetières d'anciens combattants sont remplis de soldats qu'on est allé récupérer en Afrique noire et en Afrique du Nord, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la première aussi, mais principalement pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est le premier point. Et de deux, bon, il y a quand même des scènes qui vont choquer. Bon, et je ne voudrais pas qu'on s'éternise sur ce débat qui peut être mal.
Non, il faut qu'on parle d'Abad, là.
Oui, tout à fait.
Ah oui, c'est important pour moi.
Une dernière chose, je rappelle quand même cette image frappante d'une militante noire de la Ligue de Défense noire face à un CRS qui était noir. Rappelez-vous de cette image.
Oui, je m'en rappelle.
Où cette femme,
tu es un vendu.
Elle s'est pas adressée au commandant de CRS qui était peut-être blanc, qui était même sûrement blanc, j'en sais fichtrement rien d'ailleurs. Mais elle s'est adressée à lui parce qu'il était noir et en le traitant de vendu. Et je dis, c'est là où c'est dangereux. C'est
absolument
là où on met les pieds dans un engrenage qui est.
Je partage absolument ce que vous me dites et je suis d'accord. Et je voudrais préciser encore aussi que ça ne s'adresse pas à vous particulièrement. Donc en vous connaissant, je sais très bien que je précise très bien que ça ne s'adresse pas à vous personnellement. On parle d'ordre général, mais il y a des Français qui sont pas racistes. Il y a des Français qui sont racistes et ça, il faut le reconnaître. Vous comprenez? Mais par contre, maintenant, il faut pas peindre tout le monde dans le même bateau. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais il y a de plus en plus. Le fond du problème aujourd'hui, si nous voyons qu'aujourd'hui, Pape Ndiaye est mis sur la sellette et qu'il est mis devant la scène, mais c'est pas parce que justement il est black, il est noir.
C'est juste ça. Il y a eu combien de nominations de blancs français qui sont là? Personne n'en dit rien. Et pourtant, les compétences, elles sont partout.
Stop, il y a beaucoup à dire sur d'autres.
Voilà.
Allez, justement, messieurs, je dois avancer et je voudrais qu'on avance sur un second sujet qui, lui aussi, c'est l'affaire Abad, l'affaire Damien Abad. À peine nommé au sein de l'exécutif, à peine nommé au gouvernement, les féministes sont déjà montées au créneau, les amis. Toutes les associations, y compris, souvenez-vous, MeToo, sont déjà montées au créneau. Alors, que se passe-t-il dans cette affaire ? En exclusivité sur Beurre FM, Jean-Pierre Colombiès, vous avez géré cette affaire à l'époque.
Absolument.
Vous l'avez géré. Non, mais quand je dis géré, vous l'avez géré d'un bout à l'autre.
Pas vraiment.
Vous la connaissez, cette affaire, vous la maîtrisez.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en parler aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Ben, ce serait bien justement, merci de l'occasion qui est donnée de clarifier les choses. Alors, on va être très
clair. En exclu sur Beurre FM, dans les informés.
On va être très clair. Moi, je suis ni à Renaissance ni à LR, donc les histoires et les tambouilles de règlement de compte entre parties ne me concernent pas. Bon, il se trouve que j'ai accueilli l'une des jeunes femmes qui a déposé plainte contre Damien Abad en 2017. Alors, elle a été reçue dans les meilleures conditions qu'on pouvait offrir dans les locaux du commissariat du 16e arrondissement, parce que c'est là-bas que ça s'est passé. C'est-à-dire dans les conditions que quasiment la totalité des commissariats offrent ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on peut avec les locaux dont on dispose. Alors après, quand j'entends les associations dire qu'on les reçoit mal, ben désolé, on les reçoit dans les locaux dont on dispose. Malheureusement, on n'en a pas d'autres. Donc comment ça se passe ? Parce que c'est intéressant quand même d'expliquer quand même très rapidement comment se passent les choses en termes de procédure.
Oui, oui.
Parce que ce qui est absolument révoltant, c'est qu'en ce moment, se multiplient sur tous les plateaux télé des gens qui commentent et qui ne savent pas.
Alors, dites-nous.
Donc cette plainte a été prise donc en 2017 dans les locaux du commissariat. Comment ça s'est passé ? Nous étions deux. Il y avait une jeune femme qui était gardienne de la paix. Et moi-même, je n'allais pas laisser cette dame à l'époque.
Concernant Damien Abad.
Tout simplement parce qu'à l'époque, pour mémoire, nous étions en pleine affaire Fillon.
Cette époque, c'est quoi ? 2017,
pardon. On était en pleine affaire Fillon et qu'à l'époque, Damien Abad est dans l'équipe Fillon pour la présidentielle.
Exact.
D'accord ? Donc c'est une plainte qu'on va qualifier de très sensible. Donc toutes les précautions prises, elle était longuement entendue. Nous avons recueilli sa déposition mot pour mot, sans rien en déformer, y compris en notant les détails les plus scabreux que l'on note dans une plainte pour viol. Et pourquoi on note ces détails ? Parce que j'entends aussi des gorges chaudes, on me dit « Ah oui, mais les policiers se font plaisir en notant des choses qui sont... Ah, c'est pas très, ça paraît pas très correct. » Sauf que quand on connaît un peu la procédure, et malheureusement, ceux qui en parlent beaucoup ne la connaissent absolument pas,
en matière
d'agression sexuelle et de viol, on pose des questions très précises, tout simplement pour que en savoir plus sur la solidité de l'accusation ou pas. Ensuite, une fois que les policiers ont recueilli la plainte, c'est pas eux qui gèrent les suites à donner, puisque immédiatement un compte rendu a été fait auprès du parquet de Paris, qui a demandé la transmission de la plainte pour saisir, une autre brigade plus spécialisée, qui était en l'occurrence la première DPJ, pour la suite de l'enquête. Donc ça n'a pas été mis au panier, ça a été suivi, et très bien suivi, par les états-majors et le parquet de Paris. Et pour l'anecdote, j'indique quand même, et là c'est peut-être un petit scoop pour toi Adil, c'est que dès le lendemain de la plainte,
écoutez bien,
j'ai été contacté par BFM, qui voulait en savoir TV. Un peu plus. BFM TV.
Récemment donc.
Non, en 2017.
En 2017 je parle, oui.
2017.
D'accord.
Le lendemain de la plainte,
oui,
j'ai été contacté.
Oui.
Donc, cette plainte, là où je veux en venir, c'est que cette plainte a été diffusée très largement, par qui, ça j'en sais fichement rien, les états-majors ou le parquet, je ne sais pas. En tout cas, ça s'est retrouvé dans les bureaux de certains médias. D'accord ? Et ces médias voulaient en savoir un petit peu plus. Bon, bien évidemment, je n'ai pas communiqué sur un sujet comme celui-ci. Il y a la confidentialité de la plainte, dans l'intérêt des uns comme de l'autre. Parce que les policiers, que ça plaise ou pas, ne prennent pas parti. Ils cherchent juste, simplement,
absolument,
c'est suffisamment important comme ça, à en connaître la vérité. Donc là où je veux en venir, c'est qu'en 2017, tout le monde savait que cette plainte existait. Je dis bien, tout le monde.
Tous les médias.
Voilà. Donc quand j'entends dire par certains politiques « Ah, oups, on ne savait pas », ça c'est un gros mensonge. Donc de deux choses l'une, ou Mme Borne...
Alors pourquoi elle a fait pchit à l'époque ?
Elle a fait pchit parce que tout simplement, le parquet a estimé qu'il n'y avait peut-être pas, mais je ne veux pas préjuger de l'avis de l'opinion du parquet, que les éléments n'étaient pas constitutifs d'une infraction ou d'un crime.
Alors j'ai envie de vous poser la question, évidemment, que beaucoup s'opposent. Pourquoi elle resurgit aujourd'hui ?
Il y a peut-être un effet d'opportunité politique. Ça, je pense que n'y a pas de hasard. Je veux dire, bon, comme par hasard, ça vient au moment où Damien Abad rejoint
Le gouvernement, c'est tout simplement. Bon, c'est juste parce qu'il devient ministre.
Voilà,
c'est ça.
On va pas te dire la parole.
Parce qu'il va occuper un rang important. Voilà. Et il y a des jaloux, il y a des gens, il faut savoir, il faut y aller déplucher. Qu'est-ce qu'il a fait ce mec? C'est qui lui? C'est... Mais comme le gouvernement n'est pas capable de le faire, ils vont le faire à la place des gens. Et maintenant, ils vont sortir tout ce qu'ils vont déballer.
Alors maintenant que, évidemment, l'ex-commandant Jean-Pierre Colombiès, de façon inédite, en exclusivité, nous relate un petit peu ce qui s'est passé en 2017, y compris que l'affaire, il a été contacté dès le lendemain par la chaîne de télévision BFM TV, et puis qu'aussitôt, cette affaire a été donc classée sans suite.
Elle a suivi son cours. L'affaire a été confiée à un autre service, c'est normal, hein, quand il y a une affaire de criminelle, puisque un viol est une affaire criminelle, potentiellement criminelle, on la confie à un service spécialisé.
Comment vous réagissez-vous, Ibouba? Est-ce qu'il doit quitter le gouvernement?
Non, c'est pas quitter le gouvernement. Je crois qu'il faut...
Et puis il y a la présomption d'innocence, monsieur.
Exactement. Je crois que je ne suis pas un bon juriste, c'est vrai, mais je suis un bon citoyen lambda. À ma vision spontanée des choses, je crois que ce problème-là doit être traité avec une certaine acuité et avec une certaine méfiance. Je crois que il y a les juridictions qui se sont déjà prononcées là-dessus. Nous avons bien notre commandant qui est là, Jean-Pierre, qui était témoin des faits au bon moment, qui aujourd'hui nous relate comment sont passées les choses. Mais il faudrait juste mettre en point là où il faut. C'est-à-dire que ce genre de problème n'arrive qu'à des gens qui sont nommés en général de plus en plus. Mmh. C'est mon constat. Dès que vous êtes nommé dans un gouvernement ou dès que vous êtes prêt à porter donc une casquette de tel ou de tel, alors aujourd'hui, on essaie de déballer, on essaie de sortir. Tout le monde en a, peut-être sûrement. Et je défends effectivement donc la cause féminine. Je ne dis pas que je ne suis féministe, mais aujourd'hui, je ne peux pas aussi accepter que les femmes soient femmes soient traitées d'une certaine.
Sauf que là, il y a une véritable. Oui. Attendez, montez hein, au créneau. Déferlante MeToo, revient. Ouais.
Je ne vais pas aussi accepter effectivement que les femmes soient traitées donc d'une façon ou d'une autre. Mais on voit qu'aujourd'hui, il y en a trop en trop. Les gens, ils en font trop. Dès que vous êtes nommé, on va vous mettre les bâtons dans les roues. Il faut arrêter. On est tous pour là. On est tous là pour défendre la cause féminine. On est là pour défendre. Mais si toutefois que les réalités elles sont fondées, il n'y a pas de problème. Il y a une juridiction. Et quand la juridiction française, tout le monde sait qu'on ne peut pas reprocher grand-chose.
Oui. Vous comprenez? Jean-Pierre Colombiès. Doit-il rester ou quitter?
C'est important de préciser quelque chose quand même.
Le gouvernement, Jean-Pierre.
Ça, c'est Emmanuel Macron qui prendra la décision.
Selon vous, il y a encore présomption d'innocence, c'est ça?
Mais déjà, d'une part, oui. Moi, ce qui me gêne énormément dans ce débat, ce contexte actuel qui notre ami vient de décrire, c'est qu'il y a un déferlement de toutes les associations dont aucune n'a lu la plainte. Je suis certain que parmi 9% de 90% des gens qui s'expriment sur cette affaire, aucun n'a lu la plainte. Personne ne connaît vraiment le dossier. Moi, je veux dire une chose. Pendant 3 ans, j'étais chef d'un groupe qui était spécialisé dans tout ce qui était affaires sexuelles et viols. D'accord? Donc, il n'y a aucun état d'âme sur le sujet. On l'a mis en prison, au trou, et pour très longtemps, ce que j'appelle moi des prédateurs. C'est-à-dire des vrais violeurs, des violeurs dangereux. Des types qui violent vraiment, qui sont, voilà. Mais sur 10 plaintes que nous prenions, ben oui, il y en avait 8 qui n'aboutissaient pas. Tout simplement, on avait parfois affaire à des règlements de compte entre couples. Il faut dire les choses. Alors quand j'entends, et c'est ça qui est très dangereux, quand j'entends certaines associations qui, pour légitimer leur existence propre, mettent en accusation la nature masculine en soi, je dis attention, vous dérapez, vous vous trompez de débat. Au lieu de stigmatiser la police et la justice, par exemple, peut-être s'interroger sur les moyens dont réellement la police et la justice disposent pour que ces procédures soient menées à leur terme. C'est-à-dire en allégeant les procédures, par exemple. C'est-à-dire en donnant tous les moyens aux OPJ de faire leur job, tout simplement. Au lieu de stigmatiser les flics qui passent pour d'affreux salauds, qui mettent au panier toutes les plaintes, comme on l'a entendu parfois, il faut se poser des vrais et des
Qu'est-ce qui va se produire alors pour. Alors d'un côté, on a mis tout, de l'autre, les féministes qui sont montées au créneau, et l'affaire Abad, que va-t-il se produire? Vous, évidemment.
Problème, parce que ça fait beaucoup. Ce qui pose problème, c'est au départ l'affaire Darmanin. Moi, je parle d'affaire Darmanin. Pourquoi? Parce que Darmanin, pour ramener les choses à l'essentiel, utilise sa position à l'époque chez les LR pour obtenir un rapport sexuel en échange d'un service qu'il ne pouvait pas rendre, qu'il avait promis mais qu'il n'a pas rendu. Donc ça commence à faire beaucoup. D'accord. Et même si Damien Abad n'est pas coupable, c'est pas à moi d'en juger. D'accord.
La NUP, Mélenchon, attend sa démission juste pour le symbole.
Bah oui, mais alors juste pour symbole, je suis désolé, ça veut rien dire.
Reconquête défend la présomption d'innocence.
Absolument.
Ben oui. Ben genre, mais oui, il y a une justice dans ce pays, elle se rend pas sur les plateaux télé, je suis désolé.
Bilal.
Et heureusement.
Et merci, heureusement. Messieurs, nous arrivons au terme de cette émission. C'était passionnant, je dois dire. Débat très intéressant. Merci à Ibouba.
Merci Adil Farkan. Merci.
Au plaisir.
Merci au commandant Jean-Pierre. Donc c'est un grand plaisir de partager tout ça avec vous.
Merci. Il veut vous serrer la main. Serrez-vous la main. Non, voilà.
On va faire une photo tout à l'heure.
Merci à Jean-Pierre Colombiès. Bilal Nedman, bonsoir. Quel est le programme qui nous attend ce soir?
On va parler de l'actu du jour sur Roland Garros, sans oublier aussi ce qui doit changer du côté du Paris Saint-Germain.
Wow.
Et aussi on va parler de Zidane. Peut-être oublié ou peut-être là.
C'est vrai. Selon vous, c'est quoi alors Zidane?
Zidane, je sais pas. Monsieur Colombiès, je crois qu'il va rester du côté de la Canebière, non?
Ouais. En tout cas, merci.
Il serait pas bien.
Bilal, de 20h à 21h. Merci à la réalisation Yanis. À demain avec autant de plaisir. Mais surtout, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.